Chapitre 8. Décision. Les légendes sur le catalyseur et le prophète blanc ne sont pas originaires des six duchés. Certes, quelques érudits du royaume connaissent les écrits et la littérature qui se rapportent à cette tradition, mais elle a ses racines dans les contrées qui s'étendent très loin, au sud de Jamaïa et des îles aux épices. Il ne s'agit pas, à proprement parler, d'une religion, mais plutôt d'un concept à la fois historique et philosophique. Selon ses tenants, le temps est une grande roue qui suit une piste jalonnée d'événements prédéterminés. Laissé à lui-même, le temps tourne ainsi à l'infini, et le monde est condamné à répéter le cycle des vicissitudes qui nous entraîne toujours plus bas dans les ténèbres et la dégradation. Ceux qui croient dans le prophète blanc affirment que chaque époque voit la naissance d'un être qui possède le recul nécessaire pour détourner le temps et l'histoire et leur faire emprunter une voie plus bénéfique. On reconnaît cet être à sa peau trop blanche et à ses yeux délavés. Et l'on dit que le sang des anciennes lignées des Blancs s'exprime par lui. Pour chaque prophète blanc, il existe un catalyseur, et seul le prophète d'une période donnée est capable de deviner qui il est. Il s'agit d'un personnage dont la naissance le met dans une position unique pour modifier, si légèrement que ce soit, les événements prédéterminés et engager le temps sur des voies nouvelles, aux possibilités toujours plus étendues. Associé au catalyseur, le prophète blanc œuvre à orienter la roue du temps vers un meilleur chemin. Philosophie. De trait de but. Naturellement, il n'était pas possible de soutenir éternellement pareille allure. Bien avant que je me sentisse en sécurité, l'état de nos montures nous contraignit à les laisser reprendre leur souffle. Plus aucun bruit de poursuite ne nous parvenait. Un cheval de combat n'est pas un coursier. Comme l'obscurité de la nuit remplaçait peu à peu le crépuscule, nous fîmes descendre nos juments au fond d'un vallon où serpentait un ruisseau. Celle du prince avait peine à tenir la tête droite. Dès qu'elle se serait rafraîchie en marchant un peu, il nous faudrait faire halte quelque temps. J'étais couché sur l'encolure de ma noire pour éviter les basses branches des saules qui bordaient la rue. Le prince me suivait, puis le fou. Quand nous avions ralenti, j'avais craint que Devoir ne tente de sauter de cheval pour s'échapper. Mais non. Il gardait un silence maussade, tandis que je menais sa monture par la bride. « Attention à la branche, » lui dis-je, ainsi qu'à cire dorée, quand un long rameau sous lequel ma noire était passée me barra le passage. Je m'efforçais de l'empêcher de claquer sur la figure du prince. « Qui êtes-vous ? » demanda soudain Devoir à voix basse. « Vous ne me reconnaissez donc pas, monseigneur ?» répondit Sire Doré d'un ton inquiet. Je savais qu'il tentait de détourner de moi l'attention du garçon. « Pas vous, lui, qui est-ce? Et pourquoi nous avoir ainsi attaqués, mes amis et moi ?» Je sentis une rancœur hors de proportion dans sa question. Tout à coup, il se redressa sur sa selle, comme s'il venait de se rendre compte de l'étendue de sa colère. « Baissez-vous, » lui dis-je, en laissant une autre branche se rabattre derrière moi. Il obéit.
« C'est mon valet, Tom Blaireau, » expliqua Sire Doré. « Nous sommes là pour vous ramener à Castelserre, mon prince. La reine, votre mère, se ronge les sangs pour vous. »
« Je ne souhaite pas revenir. » À chacune de ces phrases, le jeune homme se ressaisissait un peu plus, et c'est avec dignité qu'il prononça ces derniers mots. J'attendis une réponse du Seigneur Doré, mais je n'entendis que le bruit des sabots dans le ruisseau, les sifflements et les claquements des branches que nous écartions. À notre droite, une prairie s'ouvrit soudain où pointaient çà et là des souches noircies, souvenir d'un incendie qui avait ravagé la forêt dressée là bien des années auparavant. De hautes graminées aux épis brunis se disputaient l'espace avec des plantes à feu aux graines cotonneuses qui faisaient fléchir leurs tiges. Je fis sortir les chevaux du petit cours d'eau pour les mener dans l'herbe. Quand je levai les yeux, les premières étoiles apparaissaient dans le ciel assombri. La lune décroissante ne se montrerait qu'une fois la nuit bien entamée. Déjà, l'obscurité dépouillait le jour de toute couleur et transformait les bois environnants en une masse ténébreuse et impénétrable. Je ne m'arrêtai pas avant d'être parvenu au milieu de la prairie, loin de la lisière de la forêt. Si on nous attaquait, Les assaillants devraient s'aventurer en terrain découvert pour arriver jusqu'à nous. « Reposons-nous en attendant le lever de la lune, » dis-je à Sire Doré. « Nous aurons déjà bien assez de mal à voir où nous mettons les pieds à ce moment-là. »
« N'est-il pas risqué de faire halte ?»
me demanda-t-il. Je haussai les épaules. « Risqué ou non, je crois que c'est nécessaire. Les montures sont au bord de l'épuisement et il commence à faire nuit. Nous avons pris une bonne avance, je pense. Le cheval de bataille est puissant, mais ni rapide ni agile, et le terrain que nous avons emprunté va le gêner. En outre, les pies vont devoir abandonner leurs blessés, ce qui réduira leur nombre, ou bien les emmener, ce qui les ralentira. Nous avons de quoi souffler. » Je me tournai vers le prince avant de mettre pied à terre. Il restait sans bouger, les épaules voûtées. Mais la colère qui flamboyait dans ses yeux disait clairement qu'il était loin d'être vaincu. J'attendis pour lui parler que son regard sombre croise le mien. « C'est à vous de décider. Nous pouvons vous traiter avec ménagement et vous raccompagner gentiment jusqu'à Castelserre. Ou bien vous pouvez vous conduire comme un gamin entêté et tenter de vous enfuir pour rejoindre vos amis vifiés, auquel cas je vous rattraperai, et je vous ramènerai à Castelserre les mains liées dans le dos. Choisissez. » Il me regarda droit dans les yeux, attitude la plus grossière qu'un animal puisse adopter devant un autre, et ne répondit pas. Je me sentis agressé sur tant de plans différents que j'eus peine à contenir ma colère.
« Répondez !» dis-je d'un ton cassant.
Il plissa les yeux.
« Et qui êtes-vous ?»
La répétition et le ton employé firent de sa question une insulte. Au cours de toutes les années où je l'avais élevé, Heur ne m'avait jamais poussé dans l'état de fureur que ce garçon venait de susciter en un instant. Je fis pivoter ma noire. Non seulement j'étais plus grand que lui, mais la différence de taille entre nos montures me permettait de le dominer d'autant plus. Je fis avancer ma jument, puis me penchai sur lui comme un loup qui affirme son autorité sur un petit. « Je suis l'homme qui va vous ramener à Castelserre, quoi qu'il arrive. Mettez-vous cette idée dans le crâne. » Sire Doré voulut intervenir.
« Blaire !»
Mais il était trop tard. Devoir eut un geste, une infime flexion des muscles qui m'avertit, et sans réfléchir davantage, je me précipitais sur lui. Nous tombâmes dans de l'herbe épaisse, heureusement pour le prince, car j'atterris sur lui et le plaquai au sol exactement comme je l'avais espéré. Nos montures s'écartèrent en reniflant, mais elles étaient trop fatiguées pour s'enfuir. Ma noire s'éloigna de quelques pas au trot, en levant haut les genoux, et mit un second reniflement réprobateur à mon adresse, puis se mit à paître. La jument du prince, qui l'avait jusque-là suivi en tout, continua dans cette voie et entreprit de se restaurer à son tour. Je me redressai, toujours assis sur la poitrine du garçon, en lui maintenant les deux bras à terre. J'entendis Sire Doré descendre de cheval, mais ne tournait pas la tête. Je regardais Devoir dans les yeux. À le voir essayer de reprendre sa respiration, je savais que la chute lui avait coupé le souffle. Et pourtant, il se retenait d'émettre la moindre plainte. Il refusa aussi de croiser mon regard, même quand je lui arrachais son poignard et le jetais négligemment dans la forêt. Il contempla le ciel jusqu'au moment où je le saisis par le menton et le forçai à me regarder en face. « Choisissez !» répétai-je. Ses yeux croisèrent les miens, se détournèrent, puis revinrent sur moi. Quand il les détourna pour la seconde fois, je le sentis perdre un peu de sa combativité. Puis la détresse se peignit soudain sur ses traits.
« Mais je dois retourner auprès d'elle !»
dit-il dans une espèce de sanglot. Il prit une inspiration hachée, puis essaya de s'expliquer.
« Vous ne me comprendrez sûrement pas. Vous n'êtes qu'un limier qu'on a envoyé me rattraper et ramener. Vous ne connaissez que votre devoir, mais je dois absolument la retrouver. Elle est ma vie, le souffle qui m'anime. Sans elle, il me manque une partie de moi-même. Il faut que nous soyons ensemble. »
Eh bien, ce ne sera pas possible. J'avais ces mots sur le bout de la langue, mais je les retins et déclarai d'un ton sans émotion. Je comprends, mais ça ne change rien à mon devoir. « Ça ne change même rien au vôtre. » Je le libérais de mon poids alors que Sire Doré s'approchait.
« Blaireau, je vous rappelle que ce jeune homme est le prince Devoir, héritier du trône loin voyant, » fit-il d'un ton sec.
J'acceptai le rôle qu'il m'offrait. « Et c'est pour ça qu'il a encore toutes ses dents, monseigneur. »
Un gamin ordinaire qui dégaine son poignard contre moi peut s'estimer heureux s'il lui en reste une seule. » Je m'efforçais de prendre un ton à la fois maussade et hargneux. Le garçon croirait que le seigneur doré me tenait fermement par la bride, mais il se demanderait également si mon maître m'avait complètement en main, et cela me donnerait de l'ascendant sur lui. « Je vais m'occuper des chevaux, » annonçai-je en m'éloignant à grands pas dans l'obscurité. Je conservais néanmoins un œil sur les silhouettes du fou et du prince et tendis l'oreille tandis que je descendais les selles, ôtais les morts et bouchonnais les chevaux à l'aide de poignées d'herbe. Devoir se releva lentement en dédaignant la main que lui tendait Sire Doré. Il s'épousta et quand le fou lui demanda s'il s'était fait mal, il répondit avec une courtoisie glaciale qu'il allait aussi bien que possible étant donné les circonstances. Sire Doré s'écarta légèrement pour contempler la nuit et laisser au garçon le temps de reconstituer sa dignité écornée. Peu après, je lâchai les chevaux et ils se mirent à paître voracement comme s'ils n'avaient pas vu d'herbe de leur vie. Je tirai des couvertures du paquetage de ma noire et les étendis devant les selles disposées en rang. Si j'en avais le loisir, j'essaierai de m'octroyer une heure de sommeil. Le prince me regardait travailler. Au bout d'un moment, il me demanda « Vous n'allez pas faire de feu ?»«
Pour permettre à vos amis de nous repérer plus facilement ?»«
Non. » »«
Mais il ne fait pas si froid que ça. Et de toute manière, nous n'avons rien à manger, ni, à plus forte raison, à faire cuire. »
Je fis claquer la dernière couverture.
« Avez-vous de quoi vous coucher dans vos affaires ?»«
Non. » répondit-il d'un ton revêche. Je redistribuai les couvertures pour trois places au lieu de deux. Je vis qu'il réfléchissait, et il déclara « Moi, j'ai à manger, et aussi du vin. » Il s'interrompit, puis il reprit « Cela me semble un échange équitable contre une couverture. »
D'un œil méfiant, je le regardai s'approcher de moi et ouvrir ses fontes.
« Mon prince, vous nous méjugez !» protesta Sire Doré d'un ton horrifié. « Il ne nous viendrait jamais à l'idée de vous obliger à dormir à même la terre. »«
Vous peut-être pas, Sire Doré, mais lui si. » Il m'adressa un regard venimeux et ajouta « Il ne m'accorde même pas le respect d'une personne à une autre, et je ne parle pas de celui qu'un serviteur doit à son souverain. »«
Il est rustique, mon prince, mais c'est néanmoins un bon valet. »
Et Sire Doré me lança un regard d'avertissement. Je baissai docilement les yeux, mais ne pus me retenir de murmurer.
Respecter un souverain, peut-être, et pas un gamin qui s'enfuit pour échapper à son devoir.
Le garçon ouvrit la bouche comme s'il s'apprêtait à me faire une réponse cinglante, mais il relâcha sa respiration avec un soupir sifflant et maîtrisa sa colère.
Vous ignorez de quoi vous parlez, dit-il d'une voix glacée. Je ne me suis pas enfui.
Le ton de Sire Doré était beaucoup plus aimable que le mien.
« Pardonnez-moi, monseigneur, mais nous ne pouvons percevoir la situation autrement. La reine a d'abord craint qu'on ne vous eût enlevé, mais aucune demande de rançon ne lui est parvenue, et elle n'a pas souhaité inquiéter sa noblesse ni offenser la délégation outrilienne qui doit bientôt se présenter pour votre accord de fiançailles. Vous n'avez pas oublié, je pense, que dans 9 nuits, la nouvelle lune doit sceller vos accordailles. »
Votre absence à ce moment-là dépasserait les limites de la simple impolitesse et apparaîtrait comme un affront. Ce n'était pas votre désir, selon votre mère, et elle n'a pas lancé la garde sur vos traces, comme elle aurait pu le faire. Elle a préféré la discrétion et m'a prié de vous retrouver, puis de vous ramener sain et sauf. C'est notre seul but.
« Je ne me suis pas enfui, » répéta-t-il avec entêtement.
Et je m'aperçus que mon accusation l'avait piqué au vif, plus que je ne l'avais cru. Il poursuivit d'un ton buté,
« Mais je n'ai aucune intention de retourner à Castelserre. »
Il avait tiré une bouteille de vin de ses fontes, et il sortait à présent ses victuailles. Des filets de poisson fumé enveloppés dans un linge fin, plusieurs tranches de gâteau de miel à la croûte épaisse et de pommes. Ce n'était assurément pas des rations de voyage, mais plutôt le repas fin que des compagnons fidèles et attentionnés fourniraient à un prince. Il ouvrit le linge sur l'herbe et entreprit de partager ses vivres en 3 portions, qu'il répartit ensuite avec la méticulosité d'un chat. J'admirais cette démonstration de savoir-vivre chez un garçon dans une situation aussi inconfortable. Il déboucha le vin et posa la bouteille au milieu des 3 parts, puis il nous invita d'un geste.
nous ne nous fîmes pas prier. La chair était maigre, mais bienvenue. Le gâteau de miel compact, onctueux et rempli de raisins secs. D'un coup de dent, j'enfournai la moitié de ma tranche et me contraignis à la mâcher lentement, malgré ma faim de loup. Alors que nous attaquions le repas, le prince, moins affamé que nous, prit la parole d'un ton grave.
Si vous tentez de m'obliger à vous suivre, vous ne parviendrez qu'à vous attirer des ennuis. Mes amis viendront me secourir, croyez-moi. Elle ne renoncera pas à moi si facilement, ni moi à elle. Or, je ne tiens pas à ce qu'il vous arrive du mal. Pas même à vous,
ajouta-t-il en me regardant dans les yeux. J'avais pris ses paroles pour une menace, mais il expliqua d'un ton que je jugeais sincère.
Je dois la rejoindre. Je ne suis pas un gamin qui se sauve pour échapper à son devoir, ni même un homme qui cherche à éviter un mariage arrangé. Loin de fuir une perspective déplaisante, je cours là où est ma place, là où je suis chez moi par ma naissance.
Sa façon minutieuse de développer ses idées me fit penser à vérité. Lentement, son regard allait de cire dorée à moi. On eût dit qu'il cherchait un allié, ou, au moins, une oreille compréhensive. Il se passa la langue sur les lèvres comme s'il s'apprêtait à prendre un risque, puis il demanda à voix très basse.
« Connaissez-vous l'histoire du prince Pi ?»
Le fou et moi nous tûmes, et la bouchée que j'avalais perdit toute saveur.
Devoir avait-il perdu l'esprit ?
Enfin, Sire Doré acquiesça d'un hochement de tête prudent.
« Je suis de sa lignée. Comme cela se produit parfois chez les loin-voyants, je suis né doué du vif. »
J'ignorais si je devais louer sa franchise ou m'horrifier de sa naïveté. Comment savait-il qu'il ne venait pas de signer son arrêt de mort ? Je restais impassible, le regard impénétrable, tout en me demandant avec épouvante s'il avait déjà fait cet aveu devant d'autres personnes à Castelserre. Je crois que notre absence de réaction le démonta davantage qu'aucune autre manifestation. Nous demeurâmes immobiles, à le dévisager, et il se jeta à l'eau.
« Vous comprenez maintenant pourquoi il vaut mieux pour tout le monde que vous me relâchiez ? Les six duchés n'accepteront pas l'autorité d'un roi vivier, et je ne puis renoncer à ma nature. Je refuse de renier ce que je suis. Ce serait lâcheté de ma part et félonie envers mes amis. Si je vous accompagnais de mon plein gré, en peu de temps mon vif serait de notoriété publique. Si vous me rameniez de force, mon retour serait cause de friction et de division parmi la noblesse. Laissez-moi partir, et dites à ma mère que vous ne m'avez pas retrouvé. C'est le mieux. »
Je baissai les yeux sur le dernier morceau de poisson qui me restait, puis demandai à mi-voix. « Et si nous jugions que le mieux serait de vous tuer, de vous pendre, puis de vous trancher les membres et la tête, et de vous réduire en cendres près d'un cours d'eau, avant de raconter à la reine que nous ne vous avons pas retrouvé. » Je détournai le regard de la peur panique que je lus dans ses yeux, honteux de mes paroles, mais convaincu de la nécessité de lui enseigner la prudence. Je repris après un silence. « Il faut connaître les hommes avant de partager avec eux ses secrets les plus intimes. »
« Et son gibier ?»
Œil de Nuit apparut à côté de moi, sans plus de bruit qu'une ombre, sa pensée aussi légère que la brise sur ma peau. Il laissa tomber un lapin un peu abîmé devant moi. Il en avait déjà dévoré les entrailles. D'un air détaché, il saisit le morceau de poisson que je tenais dans les mains, l'avala tout rond et se coucha près de moi, en poussant un profond soupir. Il posa le museau sur ses pattes de devant.
Le lapin a détalé sous mon nez. Je n'ai jamais attrapé une proie aussi facilement.
Le prince avait écarquillé les yeux si grands qu'on voyait le blanc tout autour de l'iris. Son regard sautait sans cesse du loup à moi. Il n'avait sans doute pas saisi les pensées que nous avions échangées, mais il savait tout de même à quoi s'en tenir désormais. Il se dressa d'un bond avec un cri furieux.
« Vous devriez comprendre. Comment pouvez-vous m'arracher non seulement à ma bête de lien, mais à la femme qui partage avec moi cette parenté du lignage ? Comment pouvez-vous trahir l'un des vôtres ?»
J'avais pour ma part des questions beaucoup plus importantes à poser. Comment as-tu réussi à franchir si rapidement une telle distance ?
exacte la même façon que sa Marguette va s'y prendre, et pour une raison très semblable. Un loup peut avancer tout droit, là où un cheval doit effectuer un détour. Es-tu prêt à les recevoir ?
La main posée sur son échine, je sentis la fatigue qui faisait comme un bourdonnement en lui. Il écarta mon inquiétude d'un frémissement du pelage, comme s'il chassait une mouche importune.
« Je ne suis pas aussi décrépit que tu le penses. Je t'ai apporté de la viande. »
« Tu aurais dû la manger toi-même. » Je perçus une ombre d'amusement.
« C'est ce que j'ai fait du premier lapin. Tu ne me crois quand même pas assez stupide pour te suivre aussi loin le ventre vide. Celui-ci est pour toi, et le sans-odeur, et aussi pour ce petit humain, si tu le veux. »
À mon avis, il refusera de le manger cru.
À mon avis, éviter de faire du feu ne rime à rien. Ils vous trouveront sans avoir besoin d'une lumière pour les guider. Le petit appelle sa Marguette. C'est comme une respiration incessante. Il miaule comme un chat en chaleur.
Je ne m'en rends pas compte.
Ton nez n'est pas le seul de tes organes qui soit moins sensible que le mien.
Je me levai. Puis poussai du pied le lapin éviscéré. Je vais faire un feu pour le rôtir. Le prince me dévisageait en silence, parfaitement conscient que je venais d'avoir une conversation dont il avait été exclu.
« Vous ne craignez pas d'attirer les poursuivants ?»
demanda Sire Doré. Malgré sa question, je savais qu'il souhaitait ardemment le réconfort d'un peu de viande cuite et d'une bonne flambée. « Il s'en charge déjà, » répondis-je, en désignant le prince du menton. « Allumer un feu le temps de faire cuire un lapin n'empirera pas notre situation. »
« Comment pouvez-vous trahir votre propre sang ?»
demanda Devoir. J'avais déjà préparé une réponse la veille. « Il existe différents niveaux de loyauté dans cette affaire, mon prince, et, en ce qui me concerne, c'est d'abord au loin voyant que va la mienne. La vôtre aussi, normalement. » Il était davantage de mon sang que je n'avais le courage de le lui dire, et je souffrais pour lui. Pourtant, je ne considérais pas mon attitude envers lui comme une trahison, mais comme la mise en place autour de lui de limites de protection. Je songeais avec remords que Burick en avait fait autant pour moi jadis.
« Qu'est-ce qui vous donne le droit de me dire où doit aller ma loyauté ? »
fit-il d'un ton hautain. La colère qui sous-tendait sa question m'apprit que cette interrogation ne lui était pas étrangère et le tourmentait. « Vous avez raison. » Je n'en ai pas le droit, mon prince. J'en ai le devoir, celui de vous rappeler ce que vous paraissez avoir oublié. Je vais aller chercher du bois pour le feu. Profitez-en pour réfléchir à ce qu'il adviendra du trône des loin-voyants si vous refusez votre devoir et disparaissez dans la nature. Malgré sa fatigue, le loup se redressa lourdement et m'emboîta le pas. Nous nous rendîmes au bord du ruisseau en quête de branches mortes déposées par les hautes eaux du printemps et séchées par le soleil de l'été. Nous commençâmes par nous désaltérer, puis je passai de l'eau sur l'estafilade que m'avait laissée l'épée du prince. Nouveau jour, nouvelle cicatrice. Mais peut-être que non, après tout. J'avais à peine saigné. Je me désintéressai du sujet, me mis à la recherche de bois sec, aidé par la vision nocturne d'œil de nuit, supérieure à la mienne, et j'eus bientôt assemblé une brassée de branches.
« Il te ressemble beaucoup, »
fit le loup alors que nous retournions au campement. « Il est de la famille. C'est l'héritier de vérité. »«
Parce que tu as refusé ce rôle. Il est ton sang, petit frère, ton sang, et le mien. »
Je restai interdit un moment, puis déclarai « Tu fais beaucoup plus attention aux préoccupations humaines qu'autrefois. » Il fut un temps où tu n'en remarquais rien.
C'est vrai. Rolf le Noir nous a prévenu que nous nous étions unis trop étroitement, que je suis plus homme qu'il n'est normal pour un loup, et toi plus loup. Nous devrons le payer, petit frère. Nous n'aurions rien pu y changer, de toute façon, mais le fait demeure. Nous souffrirons d'avoir trop intimement entretissé nos natures.
Que veux-tu dire ?
Tu le sais très bien.
C'était exact. Comme moi, le prince avait grandi dans un milieu où l'on n'employait pas le vif. Et comme moi, il était non seulement tombé dans cette magie,
mais il s'y vautrait avec délice. Ignorant, il avait formé un lien excessivement profond. Pour ma part, je m'étais tout d'abord lié à un chien, alors que nous étions tous deux très jeunes et loin de posséder la maturité nécessaire pour songer aux conséquences d'une telle fusion. Et Burick nous avait séparés de force. À l'époque, je lui avais voué une haine qui avait perduré des années. Mais à présent, je regardais le prince obsédé par sa Marguette, et je m'estimais heureux que seul le chiot eût été impliqué dans mon premier lien, car j'ignorais comment l'attachement du prince pour sa Marguette s'était étendu à une jeune femme du lignage. Quand je le ramènerai à Castelserre, il perdra non seulement sa bête de vif, mais aussi la femme dont il se croyait amoureux.
Quelle femme ?
Il parle d'une femme qui appartiendrait au lignage, sans doute une de celles qui l'accompagnaient à cheval.
Il parle d'une femme, mais il ne porte pas l'odeur d'une femme. Tu ne trouves pas ça étrange ?
Je réfléchis à cette remarque en regagnant le bivouac. Je déposai mon fagot et, comme je dressais le feu puis écorçais un bâton sec pour obtenir des copeaux inflammables, j'observai le garçon du coin de l'œil. Il avait débarrassé la serviette des reliefs du repas, sauf de la bouteille de vin, et il était assis sur une couverture, l'air morose, les genoux remontés sous le menton, le regard perdu dans la nuit qui s'épaississait. J'abaissai toutes mes protections et tendis mon esprit vers lui. Le loup ne s'était pas trompé. Il appelait sa compagne de vif, mais je n'étais pas sûr qu'il s'en rendît seulement compte. C'était une petite lamentation qu'il émettait, comme un chiot égaré qui cherche sa mère en gémissant, et elle me porta rapidement sur les nerfs à partir du moment où j'en eus pris conscience. Mon agacement n'était pas uniquement dû au fait qu'elle attirait ses amis vers nous, mais aussi à son aspect pleurnichard, qui à la fois m'épouvantait et me donnait envie de lui flanquer une taloche. Mais je me contins, et, alors que j'essayais d'allumer le feu, je lui lançai sans ménagement.
« Alors, on rêve à sa donzelle ?»
Il tourna la tête vers moi, surpris, tandis que Sire Doré, saisi par la brutalité de ma question, faisait la grimace. Je me penchai pour souffler doucement sur la minuscule braise que j'avais obtenue. Son éclat grandit, et bientôt, une flamme pâle apparut. Le prince prit une expression digne. « Elle ne quitte pas mes pensées, » répondit-il à mi-voix. Je dressai plusieurs morceaux de bois fin en faisceau sur mon petit feu.
« Eh bien, comment elle est ?»
J'employai le ton cru d'un soldat, avec des inflexions que j'avais apprises lors d'innombrables repas dans la salle des gardes de Castelserre.
« Est-ce qu'elle est ?»
Je fis un geste universel sur lequel on ne pouvait se tromper.
« Bonne. Taisez-vous !»
cria violemment le prince. Je lançai une œillade et grillarde à Sire Doré.
« Ah, ça on connaît. Ça veut dire qu'il n'en sait rien. Pas de première main, en tout cas. Ou alors, il n'y a que sa main qu'il sait. »
Je me laissai aller nonchalamment en arrière et souris d'un air provocateur.
« Blaireau !»
s'exclama le seigneur Doré d'un ton outré. Je crois que je l'avais vraiment choqué. Je n'en poursuivis pas moins dans la même voie.
« Bon, c'est toujours comme ça. Il en a plein la tête de sa gueuse, mais je parie qu'il l'a jamais embrassée. Et je parle même pas de la... »
Et je réitérai mon geste. Mes sarcasmes eurent l'effet désiré. Comme je plaçais des bouts de bois un peu plus gros sur la flambée, le prince se dressa d'un air scandalisé. À la lumière du feu, je vis ses pommettes enflammées et ses narines pincées par la colère.
« Vous n'y êtes pas du tout !» fit-il d'une voix rauque. « Ce n'est pas une... Mais en fait, femme, vous ne connaissez évidemment que les putains. Elle, il faut l'attendre, la mériter, et quand nous serons enfin ensemble, notre union sera plus noble et plus belle que tout ce que vous pouvez imaginer. Son amour, il faut le conquérir, et je prouverai que je suis digne d'elle !»
J'avais mal pour lui. Ses paroles étaient celles d'un adolescent, tirée de ballades et d'épopées, et elle reflétait sa représentation de ce dont il n'avait aucune expérience. L'innocence de sa passion flamboyait en lui, et ses espérances, sa vision idéalisée de l'avenir brillaient dans ses yeux. Je trouvais une expression crue et cinglante, bien dans le ton du rôle que j'avais endossé, mais je fus incapable de lui faire franchir mes lèvres, et c'est le fou qui me tira d'affaire.
« Blaireau !»
fit-il d'un ton cassant.
« Assez. Contentez-vous de faire cuire la viande. »
« Oui, monseigneur, » grommelai-je, et je lançai à devoir un coup d'œil moqueur qu'il ne daigna pas relever. Alors que je prenais le lapin raidi d'une main et mon poignard de l'autre, le seigneur doré s'adressa au prince avec douceur.
« A-t-elle un nom, cette dame, que vous admirez tant? L'ai-je croisée à la cour ?»
On sentait dans ses questions une curiosité courtoise, à laquelle la chaleur de sa voix donnait une tournure flatteuse. Devoir tomba aussitôt sous le charme, malgré l'irritation que j'avais suscitée chez lui, et peut-être à cause d'elle. L'occasion s'offrait à lui de démontrer qu'il était un gentilhomme de bonne manière, de négliger mon indiscrétion grossière et de répondre aussi poliment que si je n'existais pas. Il sourit en baissant les yeux sur ses mains, du sourire d'un adolescent qui vit un amour secret.
« Non, vous ne l'aurez pas croisé à la cour, sire doré. C'est pareil, ne fréquente pas ce genre de lieu. C'est une dame des bois sauvages, une chasseresse et une habitante des forêts. Elle ne brode point de mouchoirs dans un jardin l'été, ni ne se pelotonne entre d'épaisses murailles près d'un âtre quand le vent se lève. Elle vagabonde librement par le vaste monde, les cheveux dans la brise, les yeux pleins des mystères de la nuit. »
Je comprends. On percevait dans la voix du seigneur doré toute l'indulgence d'un homme rassis pour la première histoire d'amour d'un jeune homme. Il s'installa sur sa selle, près du garçon, mais légèrement plus haut que lui.
« Et cette merveille des cils va-t-elle un nom, une famille ?» demanda-t-il d'un ton paternel.
Devoir leva le regard vers lui, puis secoua la tête avec lassitude.
« Là, vous voyez quelle question vous me posez. C'est pourquoi je n'en puis plus de la cour. Comme s'il m'importait qu'elle fût noble ou fortunée. C'est elle que j'aime. »
« Mais elle porte certainement un nom, » protesta Sire Doré d'un ton tolérant, tandis que je décollais la peau du lapin de la pointe de mon poignard.
« Sinon, que murmureriez-vous aux étoiles la nuit quand vous rêvez d'elle ?»
J'écorchai le lapin cependant qu'il dépouillait l'aventure amoureuse du prince de ses secrets.
« Allons, comment avez-vous fait sa connaissance ?»
Il prit la bouteille de vin, but délicatement au goulot, puis l'attendit au prince. Le garçon la fit tourner entre ses mains d'un air pensif, regarda le sourire engageant du seigneur doré et but à son tour. Enfin, il s'assit, la bouteille appuyée sur ses mains jointes, le goulot pointé vers le petit feu qui dessinait ses traits en liseré sur le fond obscur de la forêt. « C'est ma Marguette qui m'a conduit à elle, » avoua-t-il finalement. Il prit une nouvelle gorgée de vin. J'étais sorti une nuit discrètement pour chasser avec elle. J'ai besoin de solitude, de temps en temps. Vous savez ce qu'est la vie à la cour. Si j'annonce que j'ai l'intention de faire un tour à cheval à l'aube, à mon lever je trouve 6 gentilshommes prêts à m'accompagner et une dizaine de dames venues nous dire au revoir. Si je laisse échapper que je vais me promener dans les jardins après le dîner, je ne peux pas faire un pas sans tomber au détour du chemin sur une dame en train d'écrire un poème sous un arbre ou un seigneur qui désire que je dise un mot à la reine en sa faveur. C'est étouffant, sire doré. En vérité, j'ignore pourquoi tant de personnes décident de vivre à la cour alors que rien ne les y oblige. Si j'en avais la liberté, je la quitterais tout de suite. » Il se redressa soudain et balaya les alentours du regard.
« Mais je l'ai quitté, »
fit-il brusquement, comme s'il était lui-même surpris.
« Je suis ici, loin de toute cette hypocrisie et de toutes ces manœuvres, et je suis heureux. Ou du moins, je l'étais avant que vous ne veniez m'y ramener. »
Il m'adressa un coup d'œil furieux, comme si j'étais le seul fautif, et sire doré, un innocent badaud. Mon maître reprit adroitement le fil de la conversation qui l'intéressait.
« Vous êtes donc sorti chasser avec votre Marguette et cette dame ?»«
Je suis sorti chasser et... »«
Le nom de la Marguette !»
intervint soudain Œil de Nuit, d'un ton pressant. J'eus un grognement ironique.
« On dirait bien que la Marguette et la dame ont le même nom, inconnu. »
J'embrochai le lapin sur mon épée. Je n'aimais pas utiliser ma lame de cette façon, car c'était mauvais pour sa trempe. Cependant, pour me procurer une branche verte, il m'aurait fallu me rendre à l'orée de la forêt, loin du prince. Or, je tenais à entendre ce qu'il avait à dire. Devoir répondit d'un ton cinglant.
« J'aurais cru que vous, impie, sauriez que les animaux ont un nom qui leur est propre.
qu'ils ne révèlent à leur compagnon qu'au moment qu'ils jugent opportun. Ma Marguette ne m'a pas encore donné le sien. Quand je serai digne de sa confiance, je la prendrai.
Je ne suis pas impie, rétorquai-je d'un ton revêche.
Devoir ne me prêta aucune attention, et reprit avec feu à l'adresse de Sire Doré. Il en va de même pour madame. Je n'ai nul besoin de connaître son identité, alors que c'est son essence que j'aime.
Naturellement, naturellement, répondit le seigneur Doré d'un ton apaisant.
Il se rapprocha encore du prince et poursuivit. « Mais j'aimerais entendre le récit de votre première rencontre avec la belle, car, je le confesse, je suis au fond aussi sentimental qu'une dame de la cour qui pleure en écoutant un ménestrel. »
Il ne s'était pas sans doute rendu compte de la portée des paroles du prince, mais pour ma part, je m'étais senti envahi par une profonde impression d'anomalie. En effet, Œil de Nuit ne m'avait pas révélé son vrai nom tout de suite, mais il y avait des mois que le lien entre la Marguette et le prince s'était établi. Je fis tourner mon épée, mais le lapin ne suivit pas le mouvement. Sa cavité abdominale était trop large pour ma lame, et la partie déjà rôtie retomba du côté de la flamme. En grommelant, je retirai l'animal du feu et me brûlai les doigts en le fixant plus solidement sur mon arme. Puis, je le replaçai au-dessus de la flambée.
Notre première rencontre ? Fit Devoir d'un ton rêveur. Un sourire triste apparut sur ses lèvres. Malheureusement, dans un sens, elle reste à venir. Mais pour l'essentiel, j'ai déjà rencontré madame. La Marguette me l'a montré, ou plutôt, elle s'est révélée à moi, à travers la Marguette.
Sire Doré inclina la tête en regardant le garçon, d'un air à la fois intéressé et perplexe. Le sourire de son interlocuteur s'élargit.
C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui n'a pas l'expérience du vif, mais je vais essayer. Grâce à ma magie, je puis partager les pensées de la Marguette, et ses perceptions accroissent les miennes. Parfois, alors que je me trouve dans mon lit la nuit, je lui abandonne mon esprit, et je ne fais plus qu'un avec elle. Je vois ce qu'elle voit, je ressens ce qu'elle ressent. C'est merveilleux, Sire Doré, et non avilissant ni bestial comme d'aucuns veulent le faire croire. Le monde a pris vie autour de moi. S'il était possible de vous faire partager cette expérience, je le ferais, simplement pour que vous compreniez.
Avec quelle ardeur il faisait l'éloge de sa magie. J'aperçus une lueur d'amusement dans l'œil de Sire Doré, mais le prince, lui, ne vit sûrement là que chaleur et compréhension.
« Je vais devoir m'en remettre à mon imagination, » murmura mon maître.
Devoir secoua la tête.
« Non, vous n'arriverez à rien. C'est inimaginable pour qui n'est pas né avec le don, et c'est pourquoi on nous persécute. Ceux qui sont dépourvus de cette magie éprouvent une jalousie qui tourne bientôt à la haine. »
« À mon avis, la peur joue aussi son rôle dans cette affaire, » dis-je. Mais le fou me jeta un regard qui m'ordonnait de me taire. Penaud, je me détournai d'eux et fis pivoter le lapin fumant au-dessus du feu.
« Je crois pouvoir me représenter votre communion avec la Marguette. Quelle merveille ce doit être de partager les pensées d'une si noble créature. Quelle expérience pleine d'enseignements, de vivre la nuit et la chasse en compagnie d'un animal en accord si parfait avec la nature. Cependant, je l'avoue, je ne saisis pas comment elle a pu vous révéler cette dame incomparable, à moins qu'elle ne vous ait conduit à elle. »
Quel plaisir de sentir ces griffes immondes me déchirer le ventre. Chut, les marguets, de nobles créatures, des sournois à la laine de charogne qui crachent les feux loués.
Non sans mal, je fis la sourde oreille aux apartés d'Œil de Nuit pour écouter la conversation, tout en ayant l'air uniquement préoccupé de la cuisson du lapin. Le prince secoua la tête en souriant béatement à Sire Doré, heureux de parler de son amour. Avais-je un jour été jeune à ce point?
Cela ne s'est pas déroulé ainsi. Une nuit, alors que la Marguette et moi traversions une forêt aux arbres noirs argentés par l'éclat de la lune, j'ai senti que nous n'étions pas seuls. Ce n'était pas l'impression inquiétante qu'on éprouve lorsqu'on se sait observer. Cela ressemblait davantage à... Imaginez que le vent soit le souffle d'une femme sur votre nuque, l'odeur des bois, son parfum, le gazouillis d'un ruisseau, son rire amusé. Tout cela,
Je l'avais entendu ou senti 100 fois déjà, mais cette nuit-là, ces sensations semblaient multipliées. J'ai d'abord cru que mon esprit me jouait des tours, mais peu à peu, par le biais de la Marguette, j'ai appris à mieux la connaître. Je savais qu'elle assistait à notre chasse et que je lui plaisais. Quand j'ai partagé la viande fraîche de notre proie avec la Marguette, j'ai perçu que la femme goûtait elle aussi sa saveur. Les sens de ma bête de vif aiguisent les miens, je vous l'ai dit, Sire Doré. Mais cette nuit-là, j'ai vu le monde, non comme mes yeux ou ceux de la Marguette le perçoivent, mais tel que le voit madame. J'ai vu le cadre parfait qu'un mur écroulé donnait à un jeune arbre qui s'efforçait de survivre. J'ai vu le motif, toujours répété et toujours différent, du reflet de la lune sur un ruisseau parmi les rochers. J'ai vu la poésie de la nuit telle qu'elle l'aperçoit.
Le prince de Voir soupira lentement, perdu dans sa passion amoureuse, tandis que chez moi, un soupçon grandissait lentement et me glaçait peu à peu. Les oreilles dressées, les muscles tendus, le loup à mes côtés partageait mon mauvais pressentiment.
C'est ainsi que tout a commencé, par quelques aperçus partagés de la beauté du monde. Mais que j'étais naïf. J'ai cru tout d'abord qu'elle se trouvait tout près de nous et nous observait depuis quelques cachettes. J'ai demandé à la Marguette de me mener à elle et, sur mon insistance, elle a fini par accepter, mais pas de la façon à laquelle je m'attendais. C'était comme s'approcher d'un château dissimulé dans le brouillard. Pan après pan, les voiles de la brume s'écartaient, et plus j'avançais vers elle, plus il me tardait de la contempler en chair et en os. Cependant, elle m'a enseigné que la patience serait preuve de noblesse. Je dois achever au préalable mon apprentissage du vif. Je dois apprendre à renoncer à mes limites et à ma personnalité d'homme et laisser la Marguette me posséder. Une fois que je l'aurai laissée entrer en moi et que je serai entièrement devenue elle, j'aurai établi le contact le plus intime avec madame, car nous sommes tous deux liés à la même créature.
C'est possible ça ?
Le ton du loup était incrédule. Je l'ignore, avouai-je, puis j'ajoutai fermement. Mais je ne le pense pas.
Ça ne marche pas comme ça, dis-je tout haut.
Je m'étais efforcé de m'exprimer sans agressivité, car je cherchais seulement à prévenir le fou. Mais cela n'empêcha pas le prince de se hérisser.
J'affirme que si. Me traiteriez-vous de menteur ?
Je repris mon rôle de rustre.
« Si j'avais voulu vous traiter de menteur, fis-je, d'un ton onctueux, j'aurais dit « Vous êtes un menteur ». Mais j'ai dit « Ça ne marche pas comme ça ».
Un sourire découvrit mes dents.
« Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas de quoi vous parlez, voilà ce que je pense. Vous répétez comme un perroquet ce que quelqu'un d'autre vous a enfoncé dans le crâne, c'est tout. Pour la dernière fois, Blaireau, taisez-vous. Vous interrompez une histoire passionnante et peu nous chaud au prince et à moi-même que vous la croyez ou non. Je tiens à savoir comment elle finit.
Reprenons, monseigneur. Quand avez-vous enfin rencontré cette dame ? Au ton qu'il avait employé, on sentait Sire Doré suspendu aux lèvres de son interlocuteur. L'exaltation amoureuse de Devoir fit soudain place à un accablement poignant.
Je ne l'ai jamais vue. Du moins pas encore. J'allais à sa rencontre quand vous m'avez rattrapé. Sur son appel, j'ai quitté Castelserre. Elle m'a promis d'envoyer des gens m'aider à la rejoindre, et elle a tenu parole. Elle m'a promis qu'à mesure que j'apprendrai à connaître ma magie, que mon lien avec ma Marguette s'approfondira et deviendra plus ouvert, je la découvrirai de plus en plus. Naturellement, il faudra que je démontre que je suis digne d'elle. Mon amour sera mis à l'épreuve, ainsi que la sincérité de ma résolution à ne faire qu'un avec le lignage. Il faudra que j'apprenne à éliminer toute barrière entre la Marguette et moi. Elle m'a prévenu que ce serait ardu, que je serais obligé de modifier ma façon de penser, mais quand je serai prêt. Et malgré l'obscurité, je vis les pommettes du prince s'enflammer. Elle a promis que nous nous joindrons dans une union plus solide et plus authentique que tout ce dont je puis rêver. Sa jeune voix devint rauque sur ces derniers mots. La colère montait lentement en moi. Je savais ce qu'il imaginait. Et j'étais quasiment convaincu que ce que la femme lui offrait n'avait aucun rapport avec ses illusions. Il croyait qu'ils allaient consommer leur relation.
Je craignais, moi, qu'il ne se fasse consumer.
« Je comprends, »
dit Sire Doré, avec de la compassion dans la voix, mais j'avais pour ma part la certitude qu'il n'avait absolument rien compris. L'espoir brilla dans les yeux du garçon.
« Alors, vous voyez pourquoi il faut me laisser partir. Je dois continuer mon chemin. Je ne vous demande pas de me ramener auprès de mes guides. Je sais que leur colère représenterait un danger pour vous. Non, rendez-moi simplement mon cheval et laissez-moi m'en aller. C'est facile, retournez à Castelserre et dites que vous ne m'avez pas retrouvé. Personne ne saura jamais la vérité. »
« Si, moi, » fis-je d'un ton mielleux en retirant le lapin du feu. « C'est cuit, » ajoutai-je.
« Carbonisé. »
Le prince me lança un regard haineux, et j'eus l'impression d'y lire la solution évidente qui s'était présentée à lui. Tuer le valet, le réduire au silence. J'étais prêt à parier que le fils de Ketriken n'avait appris à se montrer impitoyable à ce point qu'au contact des pies. Pourtant, c'était également une idée bien digne de ses ancêtres loin-voyants. Je soutins son regard avec une petite moue provocatrice. Il inspira profondément, puis je le vis se dominer, et il détourna les yeux pour dissimuler son aversion. Il possédait une admirable maîtrise de lui-même. Allait-il tenter de m'assassiner pendant mon sommeil ? Je ne le quittais pas de l'œil, le mettant au défi de croiser mon regard, tandis que je réduisais notre repas en portions fumantes. Les doigts couverts de graisse et noircis par les parties brûlées, je tendis un morceau de viande à cire dorée, qu'il accepta d'un air de dégoût distingué. Comme il avait autant que moi souffert de la faim toute la journée, je savais que c'était pure comédie.
« Un peu de viande, mon prince ? » demanda-t-il.
« Non, merci. » Le garçon s'exprimait d'un ton glacial. Je m'étais moqué de lui, et il était trop fier pour accepter quoi que ce fût de moi. Le loup refusa sa part, si bien que le seigneur Doré et moi-même dévorâmes le lapin et n'en laissâmes que la carcasse. Le prince était assis à l'écart, les yeux perdus dans l'obscurité. Au bout d'un moment, il s'allongea sur sa couverture, et je sentis son appel de vif croître en volume. Sire Doré cassa en deux l'os qu'il tenait, en aspira un peu de moelle, puis le jeta dans les braises. Dans la lueur mourante du feu, il me regarda avec les yeux du fou, mais son expression mêlait si intimement reproche et compassion que je ne sus comment y réagir. Nous nous tournâmes vers le garçon. Il paraissait assoupi. « Je vais voir comment vont les chevaux, » dis-je.
« Je tiens à me rendre compte par moi-même de l'état de Malta, » répondit le fou,
et nous nous levâmes. Comme je me redressais, mon dos se bloqua un instant. J'avais perdu l'habitude de ce genre d'existence.
« Je vais le surveiller, »
annonça le loup d'un ton las, et avec un soupir il quitta sa place et se dirigea d'une démarche raide vers les pactages, les selles et le prince endormi. Sans hésiter, il prit entre ses dents la couverture que j'avais sortie à mon intention, la tira d'un côté puis de l'autre, jusqu'à ce qu'elle fût étendue comme il le désirait, et se coucha sur elle. Il me regarda, battit des paupières, puis braqua les yeux sur le garçon. Malgré le traitement que nous leur avions infligé, les juments étaient relativement en bonne forme. Malta vint avec empressement à la rencontre du fou et frotta sa tête contre son épaule pendant qu'il la flattait de la main. Manoir feignit de ne pas remarquer ma présence, mais s'arrangea pour éviter mon contact chaque fois que je tentais de l'approcher. La monture du prince resta neutre et ne manifesta ni enthousiasme ni rétivité quand je la touchais. Après que je l'eus caressé quelques instants, Manoir, derrière moi, me poussa du museau et quand je me retournais, se laissa caresser à son tour. Le fou déclara, en s'adressant apparemment à Malta,
« Ce doit être dur pour toi de faire sa connaissance dans de telles circonstances. »
Je n'avais pas l'intention de répondre, car je ne voyais pas quoi dire. Mais à ma propre surprise, je m'entendis répliquer. « Ce n'est pas vraiment mon fils. C'est celui de Ketriken et l'héritier de vérité. Mon corps a participé à sa conception, mais pas moi. C'est vérité qui habitait ma chair. » Je n'avais pas envie de me remémorer cet épisode. Quand Vérité m'avait révélé qu'il existait un moyen d'éveiller son dragon, que ma vie et ma passion en étaient la clé, j'avais cru que mon roi me demandait de me sacrifier pour lui. Et, toujours loyal, bien qu'à bout d'espoir,
J'avais accepté de tout mon cœur. Mais il s'était servi de l'art pour s'emparer de mon corps et m'avait laissé prisonnier dans l'épave décrépite du sien, tandis qu'il allait retrouver sa jeune épouse et concevoir avec elle un héritier. Je ne gardais rien dans ma mémoire des heures qu'ils avaient partagées. En revanche, je me rappelais parfaitement cette longue soirée passée dans la chair d'un vieillard. Même Ketriken ignorait le détail des événements d'alors. Seul le fou connaissait le secret de la conception de devoir, et sa voix me tira brusquement de mes pénibles souvenirs.
Il te ressemble tant, lorsque tu avais son âge, que j'en ai le cœur serré.
Que répondre à cela ? Rien.
Quand je le regarde, j'ai envie de le serrer contre moi pour le protéger, lui épargner les horreurs qu'on t'a infligées au nom de la survie des loin-voyants.
Il se tut un instant.
« Non, c'est faux, » avoua-t-il. « Je voudrais le protéger de toutes les horreurs qu'on t'a infligées parce que je t'avais désigné comme catalyseur. »
La nuit était trop noire et nos ennemis trop proches pour que j'eusse envie d'en entendre davantage sur le sujet. « Tu devrais dormir près de lui, à côté du feu. Le loup sera là aussi. Garde ton épée à portée de main. »
« Et toi ?»
demanda-t-il après un moment de silence. Était-il déçu que j'eusse changé si résolument de conversation ? De la tête, j'indiquai les arbres qui poussaient le long du ruisseau. « Je vais monter dans l'un d'eux pour surveiller les alentours. Essaye de dormir quelques heures. S'ils tentent de nous prendre par surprise, ils devront traverser toute la prairie, et je verrai leur silhouette se découper sur le feu. Nous aurons le temps de réagir. »
« Réagir comment ? »
Je haussai les épaules. « S'ils ne sont que quelques-uns, en nous battant. S'ils sont nombreux, en prenant la fuite. »
« Puissamment étudié comme stratégie. Humbre t'a bien formé. »
« Repose-toi. Nous nous lèverons avec la lune. » Nous nous séparâmes, et je m'éloignai avec l'impression que nous ne nous étions pas tout dit, qu'il restait un point important à évoquer. « Bah, nous trouverions un moment propice plus tard. » Celui qui croit facile de repérer dans le noir un arbre pratique à escalader n'a jamais tenté l'expérience. C'est seulement à mon troisième essai que j'en découvris un qui m'offrait à la fois une branche assez large pour que je puisse m'y asseoir et une vue dégagée sur notre bivouac. Quand je me fus installé, au lieu de me laisser aller à songer aux caprices du destin qui avait fait de moi le géniteur de deux enfants et le père d'aucun, je préférais m'inquiéter du sort de Heur. Humbre tiendrait parole, j'en étais sûr, mais mon garçon lui-même saurait-il remplir sa part du marché ? Lui avais-je appris à travailler convenablement ? Se montrerait-il assez soigneux ? Écouterait-il attentivement et accepterait-il avec humilité qu'on corrige ses erreurs ? L'obscurité était totale. J'écarquillai les yeux dans l'espoir de voir se lever la lune décroissante, mais en vain, je le savais. Sa maigre lumière n'apparaîtrait pas avant le milieu de la nuit. Sur le fond rougeâtre des braises de notre feu, je distinguais vaguement les contours du prince et de Cire Dorée enroulés dans leur couverture. Le temps passait. Aimablement, un moignon de branche m'aidait à résister au sommeil en s'enfonçant dans mes reins dès que je me laissais aller à une position trop confortable. « Descends !» Je m'étais assoupi. Je ne voyais pas le loup, mais je savais qu'il m'attendait dans les ténèbres, au pied de mon perchoir. « Quelque chose ne va pas ?»«
Descends, pas de bruit !»
J'obéis, mais pas aussi discrètement que je l'aurais souhaité. Je me suspendis à ma branche par les mains, puis me laissai tomber. Je m'aperçus alors qu'il y avait une dépression dans le sol, et ma chute fut plus longue que prévu. Le choc fit claquer mes mâchoires et choqua ma colonne vertébrale contre la base de mon crâne.
« Je suis trop vieux pour ce genre d'exercice. »« Non, tu aimerais seulement que ce soit vrai. Viens !»
Je le suivis, les dents serrées. Il me ramena en silence jusqu'au camp. Le fou se redressa sans bruit à notre approche. Malgré la nuit, je distinguais son expression interrogatrice et je lui fis signe de se taire. Le loup se rendit près du prince qui dormait, roulé en boule comme un chaton dans ses couvertures. Il posa son museau contre l'oreille du garçon et je lui indiquai à grands gestes de ne pas le réveiller. Mais sans me prêter attention, il glissa sa truffe sous la joue du prince et la releva.
La tête de devoir roule mollement comme celle d'un cadavre. Mon cœur manqua un battement. Et puis, j'entendis le léger ronflement de la respiration du prince endormi. Le loup lui donna un nouveau coup de museau, mais il ne se réveilla pas davantage. Je me tournai vers le fou qui me rendit mon regard abasourdi, puis j'allai m'agenouiller près du garçon. À Œil de Nuit leva les yeux vers moi. Il tendait son vif vers ses amis, il essayait de les contacter, et tout à coup, il a disparu. Je ne le sens plus. Le loup était inquiet. Il est très loin, presque hors d'atteinte. Je réfléchis un moment. Ce n'est pas le vif. Veille sur nous, ordonnai-je au fou. Puis je m'allongeai à côté du prince et fermai les yeux. Comme si je me préparais à plonger en eau profonde, je mesurais chacune de mes respirations en calquant leur rythme sur celle du garçon. Vérité, me dis-je, sans raison particulière, sinon qu'apparemment ce nom m'aidait à me concentrer. J'hésitais, puis à tâtons, je saisis la main du garçon, et j'éprouvais un plaisir irrationnel à y sentir les cales du travail. Je pris une ultime inspiration et me jetai dans le flot de l'art, peau contre peau, je trouvais devoir aussitôt. J'accrochai ma conscience à la sienne et me laissai emporter avec lui. Je compris soudain que c'était ainsi que le clan de Galen, bien des années plus tôt, espionnait le roi subtil. Je n'avais alors eu que mépris pour cette méthode de sangsue, mais c'est sans état d'âme que je m'en servais à présent pour suivre mon prince. J'avais ressenti un choc, l'impression d'un fort lien de parenté, quand j'avais vu le garçon de près, mais c'était sans commune mesure avec ce que j'éprouvais désormais. Je reconnaissais sa façon désordonnée d'essayer de s'orienter, son usage aveugle et sans grâce de l'art. J'avais agi de même autrefois, projetant mon esprit aux quatre vents sans savoir comment je m'y prenais ni à quel danger je m'exposais. Il tendait son vif, en ignorant qu'il artisait en même temps. Je connus un instant d'accablement car je venais de constater qu'à l'instar de mon art, le sien se mêlait de vif. Maintenant qu'il avait appris à artiser de cette manière, pouvait-on encore le former à employer la magie de l'art dans toute sa pureté? Et puis, ces réflexions s'effacèrent de mon esprit, car ma position me permettait d'observer son vif, et ce que je vis m'épouvanta. Le prince de voir était la Marguette. Il n'était pas seulement lié à l'animal, il se fondait complètement en lui, sans rien retenir de lui-même. Certes, le loup et moi avions entrelacé nos consciences à un niveau profond et périlleux, mais il restait extrêmement superficiel à côté de l'abdication totale à laquelle le prince se soumettait. Et pire encore, sa bête de vif acceptait sans réserve cette soumission. Tout à coup, comme si j'avais battu des paupières, je perçus qu'il ne s'agissait nullement d'une Marguette. Le félin constituait en réalité une couche infime de la créature. C'était une femme. Je me sentis pris dans un tourbillon de confusion et je faillis perdre ma prise sur le prince. Le vif n'agissait pas entre humains. Cela, c'était le domaine de l'art. Le prince artisait-il la femme alors? Non, leur lien n'était pas celui de l'art. Je m'efforçais de débrouiller mes perceptions, mais en vain. J'étais incapable de distinguer la femme de la Marguette, et de voir était immergé dans les deux. Cela n'avait aucun sens. La femme examinait l'esprit du garçon sur toutes les coutures. Non, elle était là et emplissait son corps comme un liquide lourd et froid. Je la sentais se déplacer en lui, explorant la forme de sa chair autour d'elle. C'était un monde qui lui restait étranger. Pourtant, ce contact glacé de l'intérieur avait quelque chose d'étrangement érotique. Leur union dans la Marguette n'était pas encore suffisante, mais bientôt, bientôt, elle le lui promettait, bientôt, il la connaîtrait complètement. Ses amis venaient à sa rescousse, et elle savait où il se trouvait. Devoir lui montra sans retenue tout ce qu'il avait appris sur le Seigneur Doré et moi, l'état de nos montures, la force qu'elles avaient encore, le loup qui m'accompagnait, et je sentis la fureur et la révulsion de la femme envers un membre du lignage qui trahissait les siens. Ils approchaient.
Par les yeux de la Marguette qui les menait en claudiquant, je reconnus les pies que nous avions combattus dans la journée. L'homme à la grande carrure avançait lentement, à pied, conduisant son énorme monture à travers la forêt ténébreuse. Les deux femmes le suivaient à cheval, et l'homme au visage griffé fermait la marche, son marguet blessé en croupe. Ils avaient à présent deux chevaux sans cavalier, ce qui signifiait que nous avions tué ou gravement blessé un de leurs membres.
« Nous arrivons, mon amour. Un oiseau est parti chercher des secours supplémentaires. Tu seras bientôt de nouveau parmi nous, » promit la femme. « Nous ne laisserons rien au hasard, et nous ne courrons pas le risque de te perdre encore une fois. Quand les autres seront là, le piège se refermera, et nous te délivrerons. »
« Allez-vous tuer Sire Doré et son valet ?» demanda Devoir avec appréhension.
« Oui. »
« J'aimerais qu'on ne touche pas à Sire Doré. »«
C'est nécessaire. Je le regrette, mais il le faut, car il s'est aventuré trop loin sur notre territoire. Il a vu le visage des nôtres, et il a emprunté nos chemins. Il doit mourir. »
« Ne peut-on le laisser s'en aller ? Il a de la sympathie pour notre cause. » Si nous lui démontrions notre force, peut-être regagnerait-il simplement Castelser en disant ne pas m'avoir retrouvé.
À qui es-tu fidèle? Comment peux-tu lui faire confiance si vite? As-tu oublié combien des nôtres se sont fait assassiner sous les loin voyants? Tiens-tu à nous voir mourir, moi et tout notre peuple?
On aurait dit un fouet qui claquait, et j'eus mal pour Devoir en le sentant courber l'échine.
« Mon cœur t'appartient, mon amour. Il est tout à toi, » affirma-t-il. « Tant mieux. Dans ce cas, ne te fie qu'à moi et laisse-moi agir comme je le dois. Rien ne t'oblige à t'y arrêter, à te croire responsable des malheurs que les gens attirent sur eux-mêmes. Tu n'y es pour rien. Tu as tenté de t'en aller discrètement et ce sont eux qui se sont lancés à tes trousses et t'ont attaqué. N'y pense plus. »
Et elle l'enveloppa d'amour, d'une chaude vague d'affection qui noya toute pensée personnelle qu'il aurait pu concevoir. Pourtant, elle semblait demeurer presque extérieure à cette déferlante, et je compris. Cet amour, c'était celui de la Marguette, l'amour farouche, à griffes et à crocs d'un félin. L'émotion me submergea moi aussi, et malgré ma circonspection, je faillis y succomber. Je sentis le prince accepter le fait qu'elle fît ce qui était nécessaire. Leur union était le seul but qu'elle poursuivait. Existait-il un prix trop élevé à payer pour cela? Elle est morte. La pensée du loup résonna comme une voix dans la chambre d'un dormeur. L'espace d'un instant, je l'intégrai à mes rêves, puis sa signification me frappa comme un coup de poing à l'estomac. Évidemment, elle est morte et elle s'est emparée de la Marguette. J'avais stupidement répondu au loup et la femme perçut aussitôt ma présence.
Qu'est-ce que c'est?
Je sentis de la peur et de l'indignation, mais surtout un ébahissement absolu. Une telle situation lui était complètement étrangère, ne faisait pas partie de sa magie et dans la nudité de sa stupéfaction, elle dévoila une grande part d'elle-même. Je rompis brutalement tout contact. Elle savait que quelqu'un s'était trouvé là, à l'observer, et je ne voulais pas qu'elle en apprît davantage. J'eus tout de même le temps de la sentir affermir son emprise sur Devoir, et il me vint l'image d'un fauve saisissant une souris entre ses griffes et lui brisant la nuque d'un coup de mâchoire. C'était une semblable impression de possession et de voracité à la fois. L'espace d'un instant, j'espérais que le prince voyait sa bien-aimée avec la même lucidité que moi. Pour elle, il était un jouet, un objet qui lui appartenait, un instrument. Elle n'éprouvait nul amour pour lui.
« Mais la Marguette, si !»
remarqua Œil de Nuit. Et, sur le constat de cette disparité, je revins en moi. Je ressentis le même choc que lorsque je m'étais laissé tomber de l'arbre. Violemment réincarné, je me redressais sur mon séant en suffoquant, essayant de retrouver mon souffle et de reconnaître mon espace personnel. À côté de moi, le prince demeura inerte, mais Œil de Nuit apparut aussitôt près de moi et fourra sa grande tête sous mon bras.
Vas-tu bien, petit frère? T'a-t-elle fait du mal? »
Je voulus répondre, mais au lieu de cela, je me penchai brusquement en avant avec un cri étouffé, alors que la migraine d'art explosait dans ma tête. Littéralement aveuglé, je me retrouvai isolé au milieu d'une nuit déchirée par des éclairs d'une blancheur éblouissante. Je battis des paupières, puis me frottai les yeux dans l'espoir d'en chasser les lumières douloureuses, mais elles éclatèrent alors de couleurs qui m'étourdirent et me mirent le cœur au bord des lèvres. Je courbai le dos et me recroquevillai sous la souffrance. Un peu plus tard, je sentis qu'on appliquait un linge froid sur ma nuque, et je perçus à mes côtés la présence du fou, qui conservait un silence dont je lui rendis grâce. J'avalai ma salive, respirai à fond plusieurs fois, et dis le visage dans les mains. « Ils arrivent, les pies que nous avons combattus aujourd'hui, et d'autres encore. Ils savent où nous sommes, grâce au prince. C'est comme une balise pour eux. Nous ne pouvons pas nous cacher. » Et ils sont trop nombreux pour leur résister. La fuite est notre seul espoir. Nous n'avons pas le temps d'attendre le lever de la lune. Œil de nuit nous guidera. » D'une voix très douce, comme s'il devinait ma souffrance, le fou demanda.
« Dois-je réveiller le prince ?»
Inutile de te fatiguer. Il est très loin d'ici, et je ne pense pas que la femme soit prête à lui permettre de regagner tout de suite son corps. Il faut l'emporter comme un poids mort. Selle les chevaux, veux-tu?
Bien sûr, Fitz. Es-tu capable de tenir un cheval dans ton état?
J'ouvris les yeux. Des zébrures flottantes de lumière morcelaient encore ma vision, mais je distinguais à présent derrière elle la prairie enténébrée. J'eus un sourire forcé.
Il faudra bien, comme il faudra bien que mon loup fasse l'effort de courir.
Toi-même, tu seras peut-être obligé de te battre. Aucun d'entre nous n'en a envie, mais nous sommes au pied du mur. Œil de nuit, mets-toi en route sans attendre. Trouve-nous un chemin et prends autant d'avance que tu le peux. J'ignore de quelle direction les renforts arrivent. Va te renseigner. Tu essaies de m'éloigner du danger. Il y avait presque du reproche dans sa pensée. C'est ce que je ferais si c'était possible, mon frère. Mais en vérité, je t'envoie peut-être là où le péril est le plus grand. Va, pars en éclaireur. » Avec raideur, il se leva, s'étira, puis il s'ébroua et se lança, non à longue foulée, mais au pas trottant qui lui permettait de dévorer les distances. Presque aussitôt, il disparut à mes yeux, loup gris fondu dans la prairie grise. « Sois prudent, mon cœur. » lui transmis-je, mais doucement, doucement, afin qu'il ne perçoive pas combien j'avais peur pour lui. Je me levai à mon tour avec un luxe de précaution, comme si ma tête était un verre rempli à ras-bord. Naturellement, je savais que mon cerveau ne déborderait pas de mon crâne, mais je l'espérais presque. J'ôtai de ma nuque le mouchoir humide du fou et l'appliquai un moment sur mon front et mes yeux. Quand je regardai le prince, il ne me parut pas avoir bougé, sinon peut-être qu'il s'était encore davantage recroquevillé sur lui-même. J'entendis le fou s'approcher dans mon dos, les chevaux à la bride, et je me retournai avec des mouvements prudents.
« Peux-tu m'expliquer ce qui se passe ?»
demanda-t-il à mi-voix, et je pris conscience alors du peu qu'il savait. Il était d'autant plus admirable qu'il eût obéi à mes ordres sans discuter. Il se sert à la fois de l'art et du vif, répondis-je. Or, comme il n'a été formé ni à l'un ni à l'autre, il est extrêmement vulnérable. Il est trop jeune pour mesurer le danger qu'il court. Pour le moment, son esprit se trouve dans la marguette. On peut pratiquement dire qu'il est la marguette.
Mais va-t-il se réveiller et regagner son corps?
Je haussai les épaules. Je l'ignore. Je l'espère. Mais ce n'est pas tout, fou. Quelqu'un d'autre est uni à la marguette. Je pense, enfin, nous pensons, œil de nuit et moi, qu'il s'agit de son ancienne compagne humaine.
Son ancienne compagne? Je croyais que les vifiers se liaient pour la vie à leur animal.
C'est exact.
Mais la femme doit être morte. Sa conscience habite la Marguette et elle se sert d'elle.
Mais n'as-tu pas dit que le prince...
Si, le prince s'y trouve avec elle. À mon avis, il ne se rend pas compte que sa bien-aimée n'existe plus en tant que femme. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'a aucune idée de l'emprise qu'elle a sur lui et sur la Marguette.
Que peut-on faire ?
La migraine me martelait le crâne, à m'en donner des nausées, et je répondis plus durement que je n'en avais l'intention. Séparer le garçon de la Marguette, abattre l'animal en espérant que le prince survivra.
Oh, Fitz !
Le fou était épouvanté. Je n'avais pas le temps de m'occuper de ses états d'âme. Celle de des chevaux seulement, Malta et Manoir. Je prendrai le gosse devant moi, puis nous nous mettrons en route. Je laissai le fou préparer les chevaux. Je ne rangeai même pas nos paquetages, car j'avais décidé que nous n'emporterions rien. Je m'assis et m'efforçai de persuader ma migraine de se calmer, tâche que ne facilitait pas le fait que je restais relié par l'art au garçon. Je sentais son absence davantage que sa présence. Je percevais aussi comme une pression sur lui, mais exercée par le biais du vif. La femme cherchait-elle à se renseigner sur moi, ou bien tentait-elle de posséder le corps du prince? Je l'ignorais, et je ne tenais pas à répondre à ses tentatives de contact. Elle en avait déjà bien assez appris lorsque nos esprits s'étaient effleurés. Je demeurais donc assis, les mains sur les tempes, et je regardais le fils de Ketriken. Comme vérité me l'avait enseigné de longues années auparavant, je dressai prudemment mes murailles d'art, mais cette fois, je les étendis, de façon à inclure le garçon couché à mes pieds. Sans chercher à savoir de quoi je le protégeais, je me préoccupais uniquement de maintenir ouvert l'espace de son esprit afin qu'il puisse y revenir.
« Prêt !»
annonça le fou à mi-voix, et je me relevai. Je montai sur Manoir, qui se montra exceptionnellement docile, tandis que le fou me passait le garçon toujours inerte. Comme toujours, je m'étonnais de la force que recélait la mince carrure de mon compagnon. Je disposais le prince de façon à pouvoir le tenir d'un bras, tout en gardant une main libre pour les rênes. C'était mal commode, mais je devrais m'en arranger. Un instant plus tard, le fou monta en selle à son tour.
« Quelle direction ?»
me demanda-t-il.
« Halte nuit. »
Je lançai mon appel aussi bas et discrètement que possible. Nos ennemis percevaient notre vif, mais je doutais qu'ils puissent s'en servir pour nous suivre.
« Mon frère !» répondit-il dans un murmure.
Je donnai un petit coup de genou à Manoir, et nous nous mîmes en route. Si on me l'avait demandé, j'aurais été bien en peine de dire où se trouvait Œil de Nuit, et pourtant, je savais que nous nous dirigions vers lui. Le prince se balançait lourdement dans mes bras, et son poids me gênait déjà. Sa masse inerte et encombrante ajoutée à la souffrance que me causait la migraine m'exaspéra soudain au plus haut point, et je le secouai brutalement. Il émit un petit gémissement de protestation qui aurait pu aussi bien être produit par un souffle brusquement expulsé de ses poumons. Pendant quelque temps, nous avançâmes dans la forêt, en évitant les branches basses et en nous frayant un chemin dans les broussailles, suivi par la jument du prince dépouillée de son harnais. Nous progressions lentement. Les arbres étaient serrés et le terrain traître pour les montures fatiguées. La présence invisible du loup nous conduisit dans une ravine, où les chevaux s'engagèrent dans le lit d'un ruisseau tumultueux, les sabots claquant sur les cailloux glissants. L'encaissement se transforma en une vallée qui s'élargit peu à peu, et nous finîmes par nous retrouver dans une prairie éclairée par la lune. Sur notre passage, des daims effarouchés s'enfuirent à grands bonds. Nous replongeâmes dans des bois où d'épaisses couches de feuilles mortes étouffèrent les pas de nos chevaux, et nous arrivâmes au pied d'une pente. Le paysage ne me rappelait rien, mais quand nous parvînmes, non sans mal, au sommet, la nuit s'ouvrit sur la route. Le trajet du loup avait coupé au travers des vallonnements de la région pour nous ramener sur la piste que nous avions suivie pendant la matinée. Je tirai les rênes de Manoir pour la laisser souffler. Plus loin en avant de nous, sur l'éminence suivante, la maigre lumière de la lune à son dernier quartier me montra la silhouette d'un loup en attente. Dès qu'il nous aperçut, il repartit au trot et disparut derrière la colline.
« Le chemin est dégagé, venez vite !»«
Au galop maintenant, » dis-je au fou à mi-voix.
Puis je me penchai pour murmurer quelques mots à l'oreille de ma jument, tout en enfonçant mes genoux dans ses flancs. Devant son manque d'empressement, je lui transmis à l'aide du vif en prenant des accents de prédateur. « Les chasseurs sont sur nos talons, ils fondent sur nous. » Elle agita les oreilles, elle était un peu sceptique, je pense, mais elle rassembla toute son énergie, et comme Malta menaçait de nous dépasser, je sentis sa puissante musculature se gonfler. Elle tendit le cou et s'élança au galop. Mais alourdie par sa double charge et fatiguée de sa longue journée, elle peinait sous l'effort. Malta soutenait l'allure courageusement, et sa présence aiguillonnait ma noire. La monture du prince se laissa rapidement distancer. Le loup courait devant nous, et je ne le quittais pas des yeux, accroché à lui comme à mon ultime espoir. On eût dit qu'il avait rejeté son manteau de vieillesse. Il filait à longue foulée élastique comme un louveteau de l'année. Sur notre gauche, l'horizon apparut alors que l'aube commençait sa timide reptation vers le jour. Je rendis grâce à la lumière de nous permettre d'avancer d'un pied plus sûr, tout en la maudissant de faciliter la tâche de nos ennemis. Nous poursuivîmes notre course dans le matin grandissant, en faisant varier l'allure de nos montures afin de préserver leur endurance. Les deux derniers jours avaient été durs pour elles, et les crever à la course n'arrangeraient pas notre situation.
« Quand pourrons-nous nous arrêter sans risque ?» demanda le fou alors que nous avions ralenti pour les laisser reprendre leur souffle.
Quand nous arriverons à Castelserre, et encore. Je me retins d'ajouter que le prince ne serait en sécurité qu'une fois la Marguette éliminée. Nous n'avions que son enveloppe charnelle. Les pies détenaient toujours son âme. En milieu de matinée, nous passâmes devant l'arbre où l'archer nous avait attaqué, et je pris soudain conscience de la confiance aveugle que j'avais en mon loup. Il avait jugé le chemin sûr, et je l'y avais suivi, sans discuter.
« Ne sommes-nous pas de la même meute? Tu dois obéir à ton chef, c'est normal. »
Le ton taquin de ses pensées ne parvenait pas à camoufler complètement sa fatigue. Nous étions tous à bout de force, hommes, loups et chevaux, et je n'arrivais plus désormais à tirer de ma noire davantage qu'un trot soutenu. De voir se balancer lourdement dans mes bras au rythme des cahots de notre chevauchée, et la douleur de mon dos et de mes épaules crispées pour le tenir en place rivalisait avec le martèlement de ma migraine. Le fou conservait une assiette impeccable sur sa jument, mais ne faisait aucun effort pour bavarder. Il m'avait proposé de prendre le prince sur Malta, mais j'avais refusé. J'étais persuadé que sa jument et lui avaient la force nécessaire, mais je me sentais le devoir de garder le corps du prince. J'ignorais pourquoi. Sa longue inconscience m'inquiétait. Je savais que son esprit fonctionnait, qu'il voyait par les yeux de la Marguette, qu'il partageait ses perceptions. Tôt ou tard, il se rendrait compte. Le prince remua entre mes bras. Je ne dis rien. Il lui fallut quelque temps pour reprendre connaissance. Et alors que ses sens lui revenaient, il fut agité de tressaillements brusques qui me rappelèrent désagréablement mes propres crises. Enfin, il se redressa soudain avec un hoquet rauque et se mit à respirer à grandes goulées à vide, en tournant éperdument la tête de tous côtés pour essayer de comprendre ce qui lui arrivait. Je l'entendis avaler sa salive, puis d'une voix râpeuse et mal posée, il demanda « Où sommes-nous ?» Il était inutile de lui mentir. En haut de la colline que nous longions, les mystérieuses pierres dressées dont Laurier nous avait parlé jetaient leur ombre, et il allait sûrement les reconnaître. Je ne me donnais même pas la peine de répondre. Sire Doré vint se placer à côté de nous.
« Mon prince, allez-vous bien? Vous êtes resté longtemps inconscient. »«
Je... oui, je vais bien. Où m'emmenez-vous ?»«
Les voilà !»
En un clin d'œil, tout bascula. Je vis le loup revenir vers nous à toute allure. Derrière lui, sur la route, des cavaliers étaient brusquement apparus. D'un rapide coup d'œil, j'en comptais cinq, accompagnés de deux molosses, eux aussi bêtes de vif. Je me tournais dans ma selle. Deux collines en arrière, d'autres cavaliers surgissaient à leur tour, et j'en vis un lever le bras pour saluer d'un geste triomphant ses camarades à l'autre bout de la route. « Ils nous ont rattrapés, » dis-je au fou, d'un ton calme. Il blêmit.
« Vite, en haut de la colline, nous nous adosserons à l'un des tertres !»
Je fis quitter la route à Manoir et mon compagnon m'imita.
« Lâchez-moi !»
s'écria mon prince, et il se débattit entre mes bras,
mais sa longue insensibilité l'avait laissé sans force. Le tenir d'une seule main n'était pas tâche facile, mais nous n'allions pas loin. Comme nous parvenions au pied du tumulus et de la colonne voisine, je tirai les rênes, puis mis pied à terre, sans grâce, mais entraînant le prince derrière moi. Manoir s'éloigna de nous, épuisé, puis se retourna pour me jeter un regard de reproche. Un instant plus tard, le fou nous rejoignit. J'esquivais sans mal un coup de poing de devoir. Je saisis son poignet au passage et me plaçai derrière lui, agrippai fermement son épaule d'une main et de l'autre lui tordis le bras dans le dos. Je ne faisais pas preuve d'une brutalité excessive et il ne renonça pas facilement à me résister. « Si je vous fracture le bras ou que je vous luxe l'épaule, vous n'en mourrez pas, » lui dis-je d'un ton âpre. « Mais ça vous empêchera de me casser les pieds pendant un moment. » Il se calma avec un grognement de douleur. Le loup montait vers nous si vite qu'on ne voyait qu'une traînée grise lancée à l'assaut de la colline. « Et maintenant ?» demanda le fou, en observant les environs avec de grands yeux. « Maintenant, nous nous battons, » répondis-je. En contrebas, les cavaliers se déployaient déjà. Le tertre n'offrirait qu'une piètre protection contre une attaque à revers, car il bloquait notre vue autant qu'il nous abritait. Le loup nous avait rejoints, et il haletait.
« Vous allez mourir !»
fit le prince, les dents serrées. Je le tenais toujours. Je le reconnus volontiers. Ça paraît très probable, en effet.
« Vous allez mourir, et moi, je vais repartir avec eux !»
La douleur déformait sa voix.
« Faites preuve d'intelligence. Laissez-moi aller les retrouver. Vous pourrez vous enfuir. Je vous promets de leur demander de ne pas vous poursuivre. »
Je croisais le regard du fou par-dessus la tête du garçon. La proposition était sensée, mais je savais quel sort attendait le prince si je l'acceptais. Elle nous permettrait peut-être de gagner du temps et d'essayer de récupérer le prince plus tard, mais j'en doutais fort. La femme Marguette nous ferait traquer et éliminer sans pitié. Alors, périr sur place, ou bien périr en nous enfuyant? Je n'avais aucune envie de choisir comment mes amis allaient mourir.
« Je suis trop fatigué pour me sauver. Je mourrai ici. »
Le fou regarda le loup d'un air hésitant. Avait-il capté sa brève pensée, ou bien avait-il simplement remarqué son épuisement?
« Nous combattrons, »
dit-il d'une voix défaillante. Il tira son épée du fourreau. Il ne s'était jamais battu de sa vie, je le savais, et il leva son arme d'un geste mal assuré. Soudain, il prit une grande inspiration et plaqua sur ses traits le masque du seigneur doré. Il redressa les épaules et une expression de froide efficacité apparut dans ses yeux.
« Il ne sait pas se battre, ne sois pas bête !»
Les cavaliers progressaient vers nous. Ils laissaient leur monture aller au pas, sans hâte, pour nous laisser le temps de voir notre mort approcher.
« Tu as une autre solution. »
« Vous ne pourrez pas à la fois me tenir et manier l'épée !»
Devoir jubilait. Il croyait manifestement que ses amis avaient déjà parti gagner.
« Dès que vous me lâcherez, je m'enfuirai. Vous mourrez pour rien. Laissez-moi partir, laissez-moi leur parler. J'arriverai peut-être à les convaincre de ne pas vous abattre. »«
Empêche-les de le prendre. Tue-le avant qu'il ne s'empare de lui. »
Malgré le sentiment de lâcheté que j'éprouvais, je répondis. « J'ignore si j'en suis capable. »«
Il le faut. Tu sais, comme moi, quelles sont leurs intentions. Si tu ne peux pas le tuer, alors... »« Alors emmène-le dans le pilier. Il s'est artisé, et tu as été lié au sans-odeur autrefois. Ça suffira peut-être. Entre dans le pilier et entraîne-les avec toi. »
Les cavaliers s'entretinrent brièvement, puis se déployèrent pour nous prendre en tenaille. Comme l'avait dit la femme, ils ne voulaient rien laisser au hasard. Souriant jusqu'aux oreilles, ils échangeaient des plaisanteries, convaincus comme le prince que nous ne pouvions leur échapper.
« Ça ne marchera pas. As-tu oublié la dernière fois? Il m'a fallu toute mon énergie lors du passage pour t'empêcher de te dissoudre, alors que nous étions étroitement liés. J'arriverai peut-être à conserver l'intégrité du garçon pendant le voyage ou la tienne, mais pas les deux. Quant au fou, j'ignore même s'il parviendrait à me suivre. »
Notre lien d'art date de nombreuses années, et il est mince. Je risque de tous vous perdre.
Tu n'as pas à choisir entre le garçon et moi.
Je ne peux pas t'accompagner. Je suis trop fatigué, mon frère. Mais je les retiendrai aussi longtemps que possible, pendant que vous vous échapperez.
Non !
Fis-je d'un ton gémissant.
Au même instant, le fou déclara.
Le pilier, tu as dit que le garçon savait artiser. Ne pourrais-tu pas ?
Non ! Criai-je. Je refuse de laisser Œil de Nuit mourir seul. Comment peux-tu seulement y songer ?
Seul ?
Le fou parut perplexe. Puis un étrange sourire étira ses lèvres.
Mais il ne sera pas seul. Je resterai là, avec lui. Et...
Il redressa le torse et se carra. Je mourrai avant de les laisser le tuer. Ah, ce serait beaucoup mieux.
Tous les poils hérissés, le loup regardait approcher la ligne des cavaliers. Mais il y avait une lueur de joie dans le coup d'œil qu'il m'adressa.
Envoyez-nous le garçon !
Lança un homme de grande taille. Nous ne lui prêtâmes aucune attention.
Et tu crois que ça va me consoler ? Demandai-je au fou.
Ils avaient perdu l'esprit, l'un comme l'autre, ma parole. Il est possible que je réussisse à traverser le pilier. Il est même concevable que j'arrive à emmener le garçon, bien que rien ne m'assure que son esprit en ressortira intact. Mais je ne pense pas pouvoir t'y faire passer, fou. Et Œil de Nuit refuse de m'accompagner.
De vous accompagner où ?
Fit Devoir. Il essaya de m'échapper et je lui tordis davantage le bras. Il se calma.
Pour la dernière fois, allez-vous nous rendre le garçon ?
Brailla le cavalier.
Je m'efforce de le raisonner,
répondit Sire Doré.
Laissez-moi un peu de temps.
Il avait glissé une nuance d'affolement dans sa voix.
Mon ami.
Le fou posa sa main sur mon épaule et il me poussa doucement en arrière, vers la pierre dressée. Je reculai, sans lâcher de voir. Les yeux dans les miens, le fou me parla calmement, posément, comme si nous étions seuls et avions tout notre temps.
Je sais que je ne peux pas te suivre, et il me peine que le loup ne le veuille pas, mais je te le dis, tu dois tout de même t'en aller avec le garçon. Ne comprends-tu donc pas ? C'est à cela que te destinait ta naissance, pour cela que tu as survécu, en dépit de tous les obstacles qui se sont dressés devant toi toute ta vie. C'est pour cela que je t'ai obligé à demeurer en vie malgré tout ce qu'on t'infligeait. Il doit y avoir un héritier loin-voyant. Si tu protèges son existence et le ramènes à Castelserre, nous maintenons l'avenir sur la route que je lui ai ouverte. Même s'il doit se dérouler sans moi, et c'est tout ce qui compte. Toutefois, si nous échouons, s'il périt...
Mais enfin, de quoi parlez-vous ?
S'exclama le prince d'un ton furieux. Le fou se tut. Il baissa les yeux sur les cavaliers qui approchaient lentement, mais son regard parut se perdre beaucoup plus loin. Mon dos touchait presque le monolithe. Devoir cessa brusquement de se débattre contre ma poigne, comme envoûté par la voix douce du fou qui avait repris.
« Si nous mourons tous ici, tout s'arrête pour nous.
Mais l'existence du garçon n'est pas le seul changement que nous avons opéré. » Le temps cherche à s'écouler, comme il l'a toujours fait, en écartant les écueils sous la puissance de son flot. Alors, le destin la trouve. Dans tous les temps possibles, le destin est en guerre contre les loin-voyants. Ici et maintenant, nous protégeons Devoir. Mais si nous nous laissons terrasser, si Orti devient le seul nœud de cette guerre... Il battit plusieurs fois des paupières. Puis, la respiration hachée, il se retourna vers moi. On eût dit qu'il revenait d'un lointain voyage. D'une voix douce, il m'annonça les désastres dont il avait eu la vision.
Je ne vois aucun avenir où Orti survit après la mort de Devoir.
Son teint devint cireux. Son regard parut soudain celui d'un vieillard et il ajouta
« Il n'y a même pas de fin rapide » et miséricordieuse pour elle.
Il inspira longuement.
Si tu m'aimes, un temps soit peu, fais-le, emmène le garçon, empêche-le de mourir.
je frémissais d'horreur. « Mais, » fis-je d'une voix étranglée, « tous les sacrifices pour préserver Horty, les avais-je consentis en vain ?» Mon esprit acheva le tableau du fou. Burick, Molly et leur fils se trouveraient avec elle et périraient avec elle. Je n'arrivais pas à reprendre mon souffle.
« Par pitié, va-t'en, »
me dit le fou, d'un ton implorant. J'ignorais ce que le garçon avait compris à notre échange. C'était une simple charge que je tenais fermement, tandis que je réfléchissais furieusement. Il n'existait pas d'issue à ce labyrinthe dans lequel le destin nous avait enfermés, je le savais, et le loup formula ma pensée à ma place. « Si tu restes, nous mourrons quand même. Si le garçon ne meurt pas, les vifiers le prendront et l'utiliseront pour leur propre fin. Il serait plus charitable de le tuer. Tu ne peux pas nous sauver, mais tu peux sauver le garçon.
Je ne peux pas t'abandonner. Ça ne peut pas se terminer ainsi, toi et moi. C'est pas possible. »
Les larmes brouillaient ma vue au moment où il m'était le plus nécessaire d'y voir clair. « Non seulement c'est possible, mais c'est indispensable. La meute ne meurt pas si le louveteau survit. Sois un loup, mon frère. Tout est plus limpide ainsi. Laisse-nous nous battre pendant que tu sauves le petit. Sauve Horty aussi. Vis bien pour nous deux et un jour. Raconte à Horty tes histoires sur moi. » Le temps nous fit soudain défaut.
« Il est trop tard !»
nous cria un des cavaliers. Leur front s'était incurvé pour nous encercler.
« Envoyez-nous le garçon, et nous vous tuerons rapidement, sinon... »
Et il éclata de rire. « Ne tremble pas pour nous. Je les obligerai à nous achever vite. » Le fou roula des épaules, puis leva son épée en la tenant à deux mains. Il lui fit décrire un arc de cercle, puis il atteint la pointe en l'air.
« Va vite, bien-aimé !»
Sa position évoquait plus celle d'un danseur que celle d'un guerrier. Pour dégainer mon épée, il m'aurait fallu lâcher le prince. La colonne se dressait juste derrière moi. Je lui jetai un bref coup d'œil par-dessus mon épaule, mais ne pus identifier le symbole érodé qui apparaissait sur sa face. Où qu'il m'emmène, je devrais m'en satisfaire. D'une voix que je ne reconnus pas, je demandai au monde qui m'entourait.
« Comment se peut-il que l'acte le plus difficile que je doive accomplir de toute ma vie soit aussi le plus lâche ? Que faites-vous ? »
fit le garçon d'un ton inquiet. Il sentait qu'un événement se préparait, et bien qu'il ne pût en deviner la nature, il se mit à se débattre violemment.
« À l'aide ! »
cria-t-il au pie qui nous entourait.
« Délivrez-moi, dépêchez-vous !»
Le tonnerre des chevaux qui chargeaient lui répondit. Une inspiration me vint soudain. Comme j'affermissais ma prise sur le garçon, je lançai au fou.
« Je vais revenir, je le fais traverser et je reviens. »«
Ne risque pas la vie du prince !»
Le fou était horrifié.
« Reste avec lui et protège-le. Si tu reviens et que tu te fais tuer, il va se retrouver seul. Elle sait où. Vas-y, hâte-toi !»
Je reconnus mon fou dans son dernier sourire, à la fois tremblant et moqueur, comme s'il mettait l'univers au défi de le tuer. Ses yeux d'or brillaient d'un éclat étrange, dû non à la peur de la mort, mais à son acceptation, que je ne pus supporter. Le cercle des cavaliers se referma sur nous. Le fou leva son arme, et elle décrivit un arc scintillant dans le bleu du ciel, et puis un pie s'interposa brusquement entre nous en hurlant, l'épée tournoyante. Je reculai sans lâcher le prince. J'eus une dernière vision du fou debout à côté du loup, les mains crispées sur son arme. C'était la première fois que je le voyais tenir une épée avec l'intention manifeste de s'en servir. J'entendis le tintement du métal contre le métal, puis le grondement du loup qui s'élançait, les crocs découverts, vers la jambe d'un cavalier. Le prince se mit à pousser des hurlements de fureur qui évoquaient plus un félin qu'un humain.
Un homme à cheval fonça droit sur nous, l'épée levée, mais j'étais adossé au pilier de pierre noire.
« Je reviendrai !»
criai-je. Et puis, je serrai d'un bras Devoir contre ma poitrine.
« Accrochez-vous. N'oubliez pas qui vous êtes !»
lui dis-je à l'oreille. Je ne voyais pas quel autre conseil lui donner. Puis je pivotais et plaquais ma main sur le symbole gravé dans la pierre.